Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, avec notre équipe fidèle, toujours, notre duo d'artistes. Il est là, face à face, aujourd'hui, comme chaque vendredi. Bonjour Rémi Ngono.
Il n'y a qu'un seul artiste, c'est l'autre est un accompagnateur.
Non, c'est votre faire. Vous êtes faire valoir l'un de l'autre, hein, ne l'oublions pas. Xavier Barré, bonjour.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Depuis tellement de temps. Il y a aussi Eric Rabessandratana qui est revenu dans le Café des Sports aujourd'hui. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et la grippe
va
mieux apparemment.
Un petit peu mieux, ouais. Un petit peu, on s'en fâme pas.
Alejandro Valente, notre réfé, est là aussi. Bonjour Alejandro. Annie. Alors aujourd'hui, au cœur des débats, nous aurons ce derby madrilène au stade Metropolitano. Les merengues en reconquête iront jouer sur la pelouse des Colchoneros. Le Real revient dans la course au titre. Il est juste derrière l'Atlético. Un nouveau test pour les hommes de Santiago Solari. Ceux de Diego Simeone sont prévenus. Les Citizens reçoivent les Blues à Manchester. L'équipe de Pep Guardiola sait que pour rester en tête de la Premier League, évidemment, il ne faut pas perdre, notamment face à Chelsea et son duo Hazard-Higuain, peut-être un duo gagnant pour l'entraîneur Sarri. Enfin, un invité dans ce Café des Sports, et je lui dis bienvenue à un confrère franco-suédois. Bonjour Marcus Kaufmann.
Bonjour Annie, merci de m'inviter.
Eh bien, merci à vous de venir nous rendre visite à un moment très important, puisque vous venez nous voir pour nous parler de Thomas Tuchel, qui est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, cette équipe qui, mardi, donnera notamment le coup d'envoi des huitièmes de finale, phase aller de la compétition. Et votre titre est sous-titré, on va dire, hein, le grand titre c'est Thomas Tuchel, mais faire grandir Paris. Beaucoup de questions donc autour de cet entraîneur, cet homme blond, souriant, déjà francophone, mais qui semble devenir nerveux à quelques jours d'une échéance européenne très importante. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Attention, dessus ! Non !
Impossible ! C'est pas possible ! C'est pas possible !
Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir.
Il s'agirait de grandir. Ça vous remue le couteau dans la plaie.
Ça me fait mal au cœur d'entendre ça.
Et je crois que tout le monde a reconnu, c'était donc le sixième but.
Ah oui, de la remontada. Hein,
de la remontada, la fameuse remontada de Barcelone sur le Paris Saint-Germain. Alors, Thomas Tuchel, autre page, autre époque de cette équipe parisienne. Il a débarqué à Paris dans la capitale en mode séduction. Thomas Tuchel, désigné dès la fin de la saison dernière comme nouvel entraîneur donc du PSG. Débarqué au début de l'été, donc de la nouvelle saison, avec de grands sourires, des éloges aussi pour la ville et pour le club du PSG qui venait donc de l'adouber. Et puis, on l'a vu rire aux entraînements, dispenser ses accolades chaleureuses à ses joueurs et notamment à sa star, Neymar. Pour ceux qui s'intéressent au football, Tuchel n'est pas vraiment un inconnu. On a suivi son travail en Bundesliga, surtout lorsqu'il était à Dortmund. Et c'est là qu'on a aussi appris à prononcer son nom, puisque David Lortolari, notamment notre confrère qui s'occupe de l'Allemagne, nous avait dit, on avait une petite longueur d'avance sur nos confrères parisiens. Votre livre, en tout cas, Marcus Kaufmann, retrace l'émergence de cet entraîneur à Mayence, un tremplin pour lui, pour le Borussia et pour la suite. Donc, sa nomination était, on peut dire, inattendue, en tout cas du côté de Paris. Bon, Paris se cherchait un entraîneur. On avait vu défiler quelques entraîneurs qui avaient des références. Disait-on ou croyait-on. Comment s'est faite cette nomination de Tuchel au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous l'avez suivi, disons, de très près, cette nomination?
Bah, je pense que c'est une nomination qui a pu surprendre au départ, dans la mesure où le projet sportif du PSG depuis le départ de Leonardo s'est souvent manifesté par des gros coups médiatiques. Donc l'arrivée de Neymar en était une, celle de Mbappé également. Et du coup, ça a surpris de prendre un entraîneur qui n'était pas un gros nom pour le football français ou même le football européen. Et c'était surtout un choix de méthode et de compétences plutôt qu'un choix médiatique ou même on pourrait dire vulgairement marketing.
Mais c'est un choix qui a échappé aussi aux dirigeants directs du PSG à Paris. On a l'impression que ça s'est fait plutôt du côté du propriétaire et donc du côté du Qatar.
Oui, ce qui se dit, c'est que ça a été fait du côté de l'émir. Il y a plusieurs rumeurs. Une, on les mentionne dans le livre. Une serait que ce serait le consul du Qatar en Allemagne qui aurait soufflé le nom de Tuchel après l'avoir vu grandir aussi bien à Mayence qu'à Dortmund. Et l'autre rumeur serait que ce serait Xavi qui au Qatar directement aurait conseillé le nom de Tuchel après une conversation à la suite du match contre le Barça où l'émir lui aurait demandé quel est le meilleur entraîneur du monde. Xavi aurait répondu Pep Guardiola. Et quel est le deuxième? Il aurait dit Thomas Tuchel.
Ouais, qui serait son émule.
C'est un bel hommage quand même. Hein.
Ouais. C'est pas mal.
Qui serait son émule, c'est une de ses références, Pep Guardiola.
Il a plein de références. Il a toujours essayé de se distancier un petit peu du discours qui disait que Tuchel admirait Guardiola, que Tuchel avait envie de copier Guardiola. Et notamment à Dortmund, quand il est arrivé après Jürgen Klopp, il a commencé à mettre en place ce système qui était bien plus basé sur la possession et qui ressemblait un petit peu au football très associatif que Guardiola a mis en place à Barcelone, à Munich et à Manchester. Et lui, il répète constamment que ce qu'il admire chez Guardiola, au-delà du style de jeu, c'est surtout l'impact de ses équipes et la capacité à Guardiola à convaincre des stars et des joueurs qui sont parmi les mieux payés au monde à finalement jouer un football très très collectif et avec énormément d'intensité.
Mmh. Ce livre, donc, on voit vous retracer tout ce parcours de Thomas Tuchel. Il y a aussi beaucoup on dit que c'est un génie tacticien, donc il y a beaucoup de mise en place d'équipe, ce que vous expliquez dans certains matchs très importants. Mais comment finalement, selon vous, il va faire grandir Paris?
Alors déjà, il va pas faire grandir Paris tout seul. Donc je pense qu'après les 6 premiers mois de cette saison, on peut voir que de son côté, il a probablement fait un gros travail de progression sur certaines individualités. Le projet sportif parisien, dans sa globalité, n'a pas forcément grandi en même temps, dans la mesure où il avait besoin d'un milieu défensif très tôt, qui n'est pas arrivé, ou qui est arrivé très tard avec Paredes, mais qui n'est pas non plus le profil qui était recherché au départ. Et si jamais Paredes devait arriver au départ, il aurait fallu avoir une autre référence à ses côtés. Et évidemment, dans les dernières semaines, avec les blessures de Neymar et Verratti, le projet global parisien, on va dire, a un peu ralenti, indépendamment de sa volonté. Lui, dans sa méthode, en fait, le livre alterne, on va dire, deux styles différents, dans la mesure où, tout d'abord, c'est le récit d'une aventure. Mm-hmm. Donc, ça commence dans son petit village de Krumbach, dans le sud de l'Allemagne, où Tuchel grandit avec 10 000 habitants, où c'est un peu la star du village footballistiquement, dans la mesure où c'est le meilleur joueur. Il part très, très tôt, à 15 ans. Et ensuite, il fait une carrière de joueur pro qui dure 6 ans en seconde et troisième division allemande, où il emmagasine beaucoup de frustration. Et à 25 ans, il décide de se couper du football.
Il a souvent fait des coupures, d'ailleurs. Hein. Il a souvent des années sabbatiques qui lui permettent, on dirait, de respirer, finalement, et de réfléchir.
Ouais, on peut en compter 3. Donc, une à 25 ans, quand il décide de se couper complètement du monde du foot. Il commence à faire des études. Il étudie l'administration des affaires. Mm-hmm. Il avait étudié déjà, quand il était joueur, l'anglais et la physiothérapie. Et il commence à être serveur à Stuttgart et il fait ses études. Et finalement, il y a un déclic le jour où son ancienne équipe Ulm est promue en Bundesliga, où là, il décide d'arracher son tablier et de revenir dans le foot. Il a la chance de trouver un stage. Donc à l'époque, il était seulement stagiaire chez Stuttgart en moins de 14 ans. Et là, tout commence. Et en fait, donc, il y a cette partie de cette sorte de folle ascension où un joueur blessé qui a 25 ans, qui est anonyme, commence tout en bas de l'échelle. Il n'a pas été invité dans l'élite du foot européen. Et donc, c'est une aventure de 18 ans où il est 10 ans formateur. Ensuite, 5 ans à Mayence avec une équipe qui a énormément de difficultés, qui construit un nouveau stade, qui doit se réinventer tous les étés. Et il arrive toujours, en travaillant avec le directeur sportif, à trouver des solutions et à écrire les plus belles pages de l'histoire de Mayence, parce qu'il termine 9e, qui est le record à l'époque en Bundesliga. Il termine ensuite 5e en étant leader du championnat jusqu'en novembre. Ils battent le Bayern plusieurs fois. Mmh. Ils se qualifient en tour préliminaire de Ligue Europa. Il fait ça pendant 5 ans. Ensuite, il a besoin de souffler. Donc il fait une année de pause où il continue à étudier le jeu à côté, mais c'est toujours il se place toujours du côté de la compétence, de l'étude et de l'expertise, dans la mesure où il n'a pas été invité. Il n'a pas un nom ni dans le football allemand qui l'aurait pu lui permettre.
Oui, il a une certaine humilité, hein,
exactement.
On voit.
Mm-hmm. Et du coup, à Dortmund, ensuite, c'est la même chose. Et finalement, à Dortmund, on lui vend un projet qui pourrait concurrencer le Bayern, ce qui n'arrive pas, dans la mesure où, un an après son arrivée, Mats Hummels, Mkhitaryan et Gundogan, qui étaient vraiment la colonne vertébrale de l'équipe, sont tous les trois vendus. Donc il doit à nouveau se réinventer. Et il prend une nouvelle année sabbatique après Dortmund pour...
avant d'arriver à Paris.
Exactement.
On a l'impression que ce personnage Tuchel qu'on a vu arriver donc avec sa méthode très douce par rapport à la réputation un peu qu'il avait, qu'il était parti à chaque fois presque en claquant la porte, qu'il a des moments où il est un peu sanguin. On a l'impression que en ce moment ça revient. Est-ce que c'est l'approche de finalement un moment qui est très important dans la saison du PSG et sûrement dans les objectifs qu'on lui a fixés, ce huitième de finale de Ligue des Champions qui le rend nerveux comme on le voit sur le banc avec certains arbitres. Est-ce que pour vous c'est à prendre en considération cette nervosité?
Bah c'est toujours compliqué d'entraîner un club comme le Paris Saint-Germain qui joue sa saison sur seulement quelques matchs. On donne pour donner que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue 1 en écrasant tout le monde. On pense qu'ils vont gagner toutes les coupes nationales possibles et imaginables. Et du coup, la Ligue des Champions est forcément le rendez-vous clé. Je pense que ce qui frustre en ce moment Thomas Tuchel, c'est de perdre le contrôle. Vu que c'est quelqu'un qui a une éthique de travail qui est très importante et qui parle toujours du processus plutôt que de la destination, le fait d'avoir tellement de joueurs blessés, d'avoir basé un projet de jeu autour de Neymar pendant six mois, pour ensuite finalement devoir se réadapter, avoir seulement trois semaines pour construire une animation offensive autour de Di Maria ou Draxler, je pense que ça peut le frustrer. Et forcément, dans les derniers matchs de coupe contre des équipes inférieures, quand il a vu les tacles qu'on a pu voir contre Strasbourg, Lyon ou en Coupe de France, c'est le meilleur de ça parce que tout simplement c'est des semaines et des mois de préparation qui peuvent tomber à l'eau sur un tacle.
Oui. Xavier.
Mais moi ce que je retiens de ce résumé très brillant de l'auteur de ce livre sur Tuchel donc c'est que on l'a souvent nous placé dans la suite de celui auquel il a succédé et à Mayence et à Dortmund, à savoir Jürgen Klopp. Et en fait, on se rend compte que philosophiquement, il est plus proche du principal concurrent de Klopp aujourd'hui, qui est Guardiola. Il a vraiment cette volonté, cette philosophie de construire une équipe sur la durée, de construire une équipe avec la possession de balle et pas seulement de procéder en contre et de jouer les coups à fond comme l'a souvent préconisé avec succès d'ailleurs Klopp. Et je trouve ça très intéressant. Le problème, comme l'évoquait très bien Marcus Kaufmann, c'est que à Paris, il n'a pas la concurrence qui permet de grandir comme le fait Manchester City actuellement en Angleterre.
Alejandro?
Oui, moi, ce qui m'a frappé dans le récit de Marcus, c'est que effectivement Guardiola est pour lui la référence, mais son parcours m'a fait davantage penser à Mourinho, qui a aussi des débuts beaucoup plus modestes et qui doit quelque part se construire presque tout seul à partir d'un passé des joueurs très minime et en remontant petit à petit les différents échelons. Donc c'est quand même, je pense, un peu un mélange entre les deux.
Avec qui vous feriez plus un parallèle?
En Allemagne, on l'a très souvent comparé à Klopp directement parce qu'il était arrivé à Mayence. Donc
et parce qu'il le suit.
Une saison après Klopp. Et ensuite, il est arrivé à Dortmund directement après cette saison de Klopp. La réalité, c'est qu'ils ne se sont jamais croisés. Donc on a souvent pensé à l'extérieur, ou du moins à l'international, que c'était son apprenti presque. Et Tuchel raconte, et c'est mentionné dans le livre, qu'ils se sont parlé 5 minutes au téléphone quand Tuchel est arrivé à Mayence et 5 minutes quand il est arrivé à Dortmund. Simplement pour lui donner un peu un message sympa et lui dire bonne chance. Donc ils n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Tuchel s'est jamais vraiment inspiré du travail de Klopp. Par contre, ce qu'il a dû faire, c'est toujours s'adapter aux effectifs dans lesquels il est arrivé, qui étaient basés sur les méthodes de Klopp. Donc je pense que indirectement, il les connaît très bien, mais il s'est pas vraiment inspiré de son travail. Là où il se rapproche, et Tuchel fait la blague, le seul point commun que j'ai avec Klopp, c'est qu'on aime porter des pulls à capuche sur le banc, parce qu'ils le faisaient tous les deux à Mayence. Mais là où ils se rapprochent le plus, je pense, c'est que tous les deux ont des personnalités extraordinaires, dans la mesure où ils sont capables de convaincre des effectifs d'une vingtaine de joueurs avec des cultures très différentes qui ont différentes nationalités. Et tous les deux ont vraiment ce charisme et un parcours presque similaire dans la mesure où Klopp est passé et lui a une carrière relativement modeste à Mayence en tant que joueur, donc il était en deuxième et troisième division. La différence c'est qu'il est passé directement coach de l'équipe première après sa carrière, alors que Tuchel a eu le temps de se former du côté du côté technique.
Rémi,
je suis surpris de cette façon de vouloir toujours comparer un entraîneur qui est en train de se débrouiller à un entraîneur qui est arrivé. On peut dire que Guardiola, je peux ne pas aimer ses méthodes, mais dire quand même qu'aujourd'hui, Xavi dise que après Pep Guardiola, c'est Klopp, c'est Tourelle, voulais-je dire que c'est Tourelle. J'ai failli sursauter, j'ai même failli tomber, parce que je me suis dit mais Xavi, il connaît le football ou bien c'était un Xavi du quartier ou c'est un Xavi ancien footballeur. Deuxième des choses, lorsque je vois le système,
peut-être les mêmes références que vous.
Lorsque je vois le football de Pep Guardiola, la possession minimale c'est 77%. Lorsque je vois le Paris Saint-Germain de Tourelle, je vois par exemple contre Liverpool, ils sont en train de gagner avec une possession de 44%. C'est-à-dire que moi je vois plutôt que le Paris Saint-Germain de Tourelle n'a pas cette possession-là. Même Ancelotti avait plus de possession que le Paris Saint-Germain de Tourelle, qui
donc,
bien au contraire,
sur un match, faut
moi je vois,
les, faut comparer,
moi je vois que il est plutôt, c'est, et d'ailleurs quand vous me dites aujourd'hui que il est en train de construire autour de Neymar et tout, Neymar, ce n'est pas exactement le style Guardiola. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on est en train de vouloir faire cette similitude, lorsque je vois la façon d'aborder le jeu et lorsque je vois la façon qu'il dirige et les entraînements et le taureau, ça n'a rien à voir avec Pep Guardiola.
Ça n'a rien à voir avec Pep Guardiola pour vous, non plus, Marcus?
D'une part, le football de Pep Guardiola ne se résume pas au chiffre de possession de balle, même si évidemment elle a toujours été très élevée dans tous les clubs qu'il a entraîné. Et d'autre part, si on revient sur le parcours de Thomas Tuchel, lui, il a été très influencé au départ par ce qu'on appelle le clan des Swab, qui est en fait une école de pensée footballistique qui a été développée dans les années 90 à Stuttgart par son gourou qui s'appelle Helmut Gross, qui est un ingénieur de formation, qui a entraîné des équipes amateurs à côté. Et qui, en fait, s'est mis en contact avec le club de Stuttgart pour mettre en place une école de pensée autour de ce qu'ils appelaient le football contre-ballon, qui ensuite a donné le Gegenpressing, qui a été mis sur la scène mondiale par Jürgen Klopp. Et du coup, au départ, on va dire, les influences tactiques de Thomas Tuchel sont très axées sur ce pressing très, très intense.
Et très allemande, donc.
Et les contre-attaques. Mais en réalité, ça se rapproche à Pep Guardiola dans la mesure où c'est un football qu'ils vont appeler un football actif.
Ah ben là, c'est Jürgen Klopp qui est trop dans la contre-attaque et surtout dans le pressing tout terrain, tous azimuts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je dis que même quand je vois à une certaine période aujourd'hui, on dit que c'est Pep Guardiola. Pep Guardiola, c'est fatiguer l'adversaire en faisant tourner l'adversaire en bourrique, en faisant tourner le ballon. Or, le football de Klopp, c'est bien au contraire d'aspirer, de contraindre à reculer. C'est-à-dire que c'est un effort physique intense, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je dis que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et quand je regarde le nombre de passes, par exemple, dans un match de football, par exemple, regardez seulement le Dortmund de Klopp. Le Dortmund de Tourelle, voulais-je dire. Le Dortmund de Tourelle. Lorsque vous regardez le nombre de passes qu'ils ont réussi à faire, le nombre de passes, c'est uniquement 11 000 passes pendant toute la saison. Or, quand vous regardez le Manchester City de Pep Guardiola, c'est 23 000 passes.
Oui,
c'est
bon, pour ça donc, que Rémi, que vous part, dites, ouais,
moi, je trouve plutôt
vous les comparez pas.
Je vois plutôt que il est beaucoup plus axé sur le système clan. Bon. Et d'ailleurs, c'est le même nombre de passes, presque la même vitesse au niveau de l'exécution.
Non, mais on peut pas
ça
comparer.
Dépend, de toute façon, ça dépend, le système dépend des joueurs. Donc, on peut pas comparer, de toute façon, ces équipes, on peut pas les comparer. Même les entraîneurs, on peut pas les comparer. On s'adapte aux joueurs qu'on a. Donc, le Paris Saint-Germain joue en possession quand ils sont en championnat parce qu'ils ont forcément la possession. Et en Coupe d'Europe, c'est plus penché sur le jeu. Je vais vite pour essayer d'aller marquer vite parce que, on sait très bien que si on garde la possession, on va s'exposer beaucoup plus que contre les équipes du championnat.
De toute façon, je suis pas sûr que les références soient, enfin que tout soit référence. Il faut s'intéresser à l'équipe de Tuchel, à ses recettes aussi pour pouvoir porter Paris au-delà de cette échéance de Manchester United avec toutes ces absences.
Surtout, c'est un projet qui est en construction. On a vu contre Liverpool à Anfield, il avait décidé de laisser le 4-3-3 de la marque Laurent Blanc qui n'avait pas tellement été modifié ces dernières saisons et de dire aux joueurs, écoutez, débrouillez-vous. On va voir ce que ça peut donner. Ça a pas donné grand chose dans la mesure où le PSG a non seulement perdu la bataille de la possession, mais surtout s'est fait dominer dans l'intensité. Et ensuite, petit à petit, il a essayé de travailler sur deux chantiers. Un chantier qui était la structure de l'équipe, donc aussi bien sans ballon qu'avec le ballon, qui a été très bien vu à Naples, où le PSG a su garder une structure, on va dire, défensive avec le ballon très efficace, dans la mesure où on avait Kerrer, Thiago Silva et Marquinhos qui arrivaient à garder le ballon derrière et qui a aspiré le pressing des Napolitains. Et ensuite, à trouver Neymar entre les lignes pour essayer de créer quelque chose devant. Et l'autre chantier, c'est la vitesse de la circulation du ballon, où là, pour rebondir sur ce que Rémi disait sur le City de Guardiola, il y a encore beaucoup de boulot à faire, dans la mesure où les circuits de passe du Paris Saint-Germain ne sont pas aussi travaillés ou sophistiqués que ceux qu'on a pu voir chez Tuchel à Dortmund, par exemple. Mais c'est une question de travail.
Encore une question, Marcus Kaufmann, à propos du travail de Thomas Tuchel. Pour vous, théoriquement, si on lui donne le temps qu'il faut, combien de temps a-t-il besoin, Thomas Tuchel, pour faire grandir Paris, c'est-à-dire pour installer sa tactique, son schéma de fonctionnement, tant humain que justement technique?
Alors, je pense que son schéma humain, il a déjà réussi à le mettre en place. On l'a vu cet été, il a vraiment fait de gros changements au camp des loges sur la mentalité de tout le monde, aussi bien des joueurs que du staff, des employés du club. Tout le monde est très content de travailler pour lui. C'est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui a cette intelligence pour non seulement comprendre les joueurs. On l'a vu récemment avec Neymar, où il reste très très proche de lui pendant qu'il est blessé, parce qu'il comprend le joueur et la solitude du footballeur aujourd'hui, surtout quand il est mis de côté. Et ensuite, je pense que on va dire le projet technique du Paris Saint-Germain va surtout dépendre des capacités du club à offrir les outils nécessaires à Tuchel pour mettre en place son idéal footballistique qu'il a jamais réussi à mettre en place ni à Mayence ni à Dortmund, faute de moyens. Et une des raisons pour lesquelles il est arrivé à Paris, c'est que il espérait avoir tous ses moyens pour pouvoir rivaliser les grandes d'Europe et avoir un objectif esthétique. Pour l'instant, l'objectif n'est pas esthétique, dans la mesure où le PSG a un besoin de résultats.
Et oui.
S'il passe face à Manchester United, peu importe la manière, je pense que ce sera une mission réussie.
Oui, bien sûr. Alejandro.
Moi, une chose qui m'étonne, vu le côté perfectionniste de Thomas Tuchel, c'est comment a-t-il accepté de venir à Paris en conservant quelqu'un comme Antero Henrique, qui n'est pas quelqu'un qui, même si tout le monde aime travailler avec lui, on n'a pas l'impression qu'Antero Henrique soit très en accord avec ses idées ni avec sa volonté d'avoir tous les moyens mis à sa disposition.
Ouais, je pense qu'il faut se mettre à la place de Thomas Tuchel en mai, ou plutôt avril 2018, quand la situation commence à se créer. Il n'y a pas un milliard de grands clubs européens qui peuvent offrir des moyens illimités à des entraîneurs avec une grande confiance. Si en plus on doit choisir le directeur sportif, le président et toutes les personnes avec qui on doit travailler, ça devient très difficile. Donc, je pense pas qu'il aurait... Je vois pas, même s'il avait signé avec le Bayern, il aurait eu d'autres soucis avec des directeurs sportifs qui sont peut-être encore moins compétents. Et du coup, ça.
Ouais. Il a souvent des problèmes avec les directeurs sportifs, partout où il passe apparemment. Bah, c'est pas une première.
Ouais, il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre sur, on va dire.
C'est parce qu'il veut contrôler tout ou parce que, non, parce que le rapport avec le directeur sportif est difficile pour lui.
Je pense pas que c'est une question de tout contrôler. Lui, il a plusieurs conférences, il s'est défendu d'être ce qu'il disait en anglais un control freak.
Ouais.
Et par exemple à Mayence pendant 5 saisons, il s'est très bien entendu avec le directeur sportif Christian Heidel. Ils ont fait un partenariat superbe où dès la première saison, quand il était entraîneur des moins de 19 ans, où il avait été repéré par le coordinateur du centre de formation, puis ensuite les 5 ans en tant qu'entraîneur pro, ça s'est très bien passé. Ils ont réussi à recruter des pépites dont on entend encore parler aujourd'hui. Et ensuite, quand il est passé à Dortmund, il est arrivé dans une structure qui était très habituée à Jürgen Klopp, qui travaillait ensemble depuis 10 ans. Et ça s'est, je veux pas dire que ça s'est mal passé, mais c'est-à-dire que aujourd'hui dans le foot européen, au vu des pressions financières que tous les clubs ont, il y a très souvent une logique à long terme, par exemple à Dortmund, qui va être d'acheter des joueurs très bons, très jeunes,
et de les revendre
pour pas cher et de les revendre, alors qu'un entraîneur comme Thomas Tuchel, qui va être jugé sur une, deux ou trois saisons, va avoir des objectifs à court terme, qui va être de remporter la Ligue des Champions ou alors de remporter le championnat.
Et pas de recommencer
à
chaque année.
Et à Dortmund, il s'est forcément confronté au département de recrutement du club, qui, eux, avaient l'objectif de recruter des joueurs pour 10-15 millions, alors que lui, il espérait avoir Ilkay Gundogan, par exemple, pour une saison de plus, ou d'autres joueurs pour un peu plus expérimentés.
En tout cas, Thomas Tuchel sera au centre des attentions dès mardi, c'est-à-dire dans 4 jours, pour ce match disputé à Manchester face donc le Paris Saint-Germain face à Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Marcus Kaufmann de nous avoir parlé de Thomas Tuchel, mais restez
beaucoup
avec nous parce qu'on va continuer à parler football et je pense que ça vous intéressera aussi. Pour la première fois justement dans cette Ligue des Champions, l'assistance vidéo sera offerte aux arbitres. La VAR fait son entrée entrée en Ligue des Champions, finalement plutôt que prévu, puisque le président Alexander Seferin, réélu d'ailleurs hier pour 4 ans à la tête de l'UEFA, ne voulait pas l'imposer. Finalement, il avait dit en quart de finale, et ça sera dès les huitièmes de finale. Tous les entraîneurs des 16 équipes qualifiées, et dont Thomas Tuchel d'ailleurs lundi, étaient du côté de Francfort pour que leur soit expliqué comment fonctionne l'assistance vidéo, et surtout quand elle n'est pas utilisée, c'est-à-dire quand on n'y a pas recours. Écoutons d'ailleurs Clément Turpin, l'arbitre français international, qui rappelle ce qu'est la VAR.
4 cas dans lesquels le protocole vidéo intervient. Après, ce qui est important à comprendre sur cette assistance vidéo, c'est que l'homme, l'arbitre, sera toujours au début de l'histoire, puisque c'est lui qui dit « Ok, on ouvre le protocole vidéo », et c'est lui qui le conclut. C'est à lui qu'appartient la décision finale. Donc au milieu de tout ça, effectivement, il y a une aide, mais l'arbitre sera toujours au début de l'histoire et à la fin de l'histoire. On est bien dans de l'assistance vidéo et certainement pas dans de l'arbitrage vidéo.
Voilà. Est-ce que l'humain reste bien décisionnaire? C'est un peu la question qu'on se pose certaines fois, Xavier, après certains matchs et après certaines décisions douteuses.
Mais effectivement, parce qu'en fait, il y a deux cas de figure en ce qui concerne l'assistance vidéo. Soit l'assistance vidéo vous apporte une réponse sur une décision objective. Est-ce que le ballon a franchi la ligne ou pas? Est-ce que la faute est à l'intérieur de la surface ou à l'extérieur?
Donc,
est-ce qu'il y a
pénalty
ou pas? Voilà.
Est-ce qu'il y a carton rouge et ensuite l'identité du joueur sanctionné?
Oui, non, mais là, il y a, ça, c'est les quatre cas où effectivement s'applique la VAR. Une fois que vous êtes dans ces quatre cas, soit vous avez besoin d'une information objective, qui est-ce que c'est dans la surface ou à l'extérieur de la surface? Donc, est-ce qu'il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty? Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Est-ce que le joueur est dans telle position par rapport? Si c'est une situation objective, à ce moment-là, l'arbitre vérifie et il applique la règle. Si en revanche, il y a place à l'interprétation, que ce soit dans le vif de l'action avec ses yeux d'humain ou que ce soit à la télé avec un écran de contrôle, il y aura toujours cette part d'interprétation qui peut prêter à polémique lorsqu'elle n'est pas dans le sens de ce que pensent certaines personnes.
Oui, mais c'est théoriquement toujours l'homme qui va finir par décider, Eric.
Bah, ce sera toujours l'homme qui prendra la décision, sauf que on peut se poser des questions sur l'interprétation des fois. Sur le, moi je prends l'exemple de Paris forcément, mais sur le tacle sur Kerrer, il y a intervention de la VAR. Il y a visionnage mm-hmm. de l'arbitre des images, et il revient et il laisse un carton jaune alors que
tout
même
le monde
Stevie
a vu
Wonder il aurait mis un carton rouge. Non mais voilà, je veux dire, c'est faut quand même, il y a un problème aussi d'interprétation, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors mais bien sûr que l'erreur est humaine, je suis d'accord, il y a pas de problème.
Cette interprétation, elle existe que tu aies l'assistance
oui,
vidéo.
Oui, bien sûr,
ou pas.
Bien sûr, là je suis d'accord.
Voilà, l'arbitre,
là,
s'il n'a pas l'assistance vidéo, il va dire cette faute mérite un rouge ou elle ne le mérite pas.
Elle existe voilà. Sauf que quand tu te fais aider par la VAR et que tu te prends la même décision que si tu n'avais pas eu la VAR,
là ça reste humain.
Effectivement, voilà. Maintenant, moi je me souviens quand j'ai écrit le bouquin la saison dernière sur on refait oui. La Coupe du Monde avec la vidéo chez Solar, avec Joël Quiniou, donc mm-hmm. qui a arbitré dans trois phases finales de Coupe du Monde, il me disait, tu sais, quand tu es sur le terrain, au milieu des débats, au milieu des 22 joueurs, tu n'as pas toujours la même interprétation, la même perception que les gens qui sont autour dans les tribunes. Parce que c'est toi qui vois l'acte. Tu es à 2, 4, 5, 10 mètres de l'action, tu vois l'intensité, tu vois s'il y a la volonté de faire mal ou pas. Tu vois s'il y a si c'est une erreur manifeste, une maladresse d'un joueur. Alors effectivement, une maladresse coupable.
Et donc l'assistance vidéo pour lui...
Donc lui, l'assistance vidéo, il dit que c'est indispensable. Aujourd'hui, il faut évoluer avec son temps, mais qu'il faut laisser la main à l'arbitre. Mmh. Hein, ouais, il faut laisser la main à l'arbitre parce que c'est l'arbitre qui est au centre du terrain et c'est lui qui sent l'atmosphère du match.
Rémi, est-ce que ça va améliorer finalement la phase finale de la Ligue des Champions pour vous, le fait que l'assistance vidéo intervienne à partir de maintenant?
Sans l'ombre d'un doute, mais sauf que là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit. C'est l'homme qui décide. Non, ce n'est pas l'homme qui décide parce que depuis un certain temps, je me rends compte que c'est les hommes qui décident et qui ne se décident pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je regarde par exemple ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. On dit c'est l'assistance vidéo, mais ce n'était pas l'assistance vidéo. C'est-à-dire que pour le match du Nigeria, on voit subitement que c'est la VAR qui fait appel à l'arbitre. Or, pour d'autres cas, l'arbitrage vidéo ne fait pas appel à l'arbitre. Ce qui signifie que... Et c'est ça que je dis que... Mais qui doit prendre l'initiative? Puisque si c'est l'arbitre central qui doit solliciter la VAR, dans ce qu'on comprend, ou alors c'est la VAR qui fait la pression sur l'arbitre jusqu'à ce que le match était en train de se poursuivre et subitement, on arrête le match qui était en train de se poursuivre et dit bon, arrêtez, je m'en vais vérifier une autre action. Donc on se rend compte que ce n'est pas l'arbitre qui est au terrain qui décide, mais parfois c'est celui qui est à l'intérieur et parfois d'ailleurs, je vais vous dire,
ils sont ensemble,
j'ai par exemple vu un autre match, regardez par exemple en Copa del Rey, c'est-à-dire que le Barça contre le Real Madrid, eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de la surface? Vinicius est bousculé, on attrape son maillot, c'est-à-dire que Jordi Alba, mais non seulement on ne met pas le ralenti, l'arbitre n'intervient pas, la VAR n'intervient pas, c'est pour ça que je dis que tous ces gens-là, parfois, il y va de la malhonnêteté et que les gens même, parfois, ils voient, ils refusent de signaler ou de faire appel à la VAR, comme le dit un proverbe africain, quelle que soit la raison du corbeau, eh bien, le renard ne lui donnera jamais raison s'il est juge.
Alejandro.
Je pense qu'il y a deux écoles. En fait, il faut comprendre que la VAR est plutôt dans la phase des débuts. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors,
il y a
ceux qui disent il faut surtout que la VAR soit appliquée de façon très sporadique afin de ne pas rompre le rythme du jeu. Et ceux qui disent non, du moment qu'on a cette technologie, il faut que dans tous les cas où il peut y avoir un doute, on arrête, quitte à prolonger les matchs de plusieurs minutes à cause de toutes ces interruptions. Et je pense que c'est une des difficultés. Après, il faut dire que les arbitres, peu à peu, s'habituent à travailler avec la VAR. Et c'est pour ça que l'UEFA a dû céder, parce que des arbitres qui ont l'habitude de travailler dans leur championnat avec la VAR, qui laissent, par exemple, les actions se poursuivre afin de ne pas stopper une action de but, et même s'ils ont un doute, aujourd'hui, auraient du mal à s'habituer tout d'un coup à arbitrer un match de très haut niveau sans cette technologie en accompagnement.
D'autant plus que tous les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on parle de la Ligue des Champions, pas de l'Europa League qui n'aura pas encore l'assistance vidéo, tous ces clubs évoluent dans des championnats où il y a maintenant l'assistance vidéo. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir... Il n'y a que l'Angleterre, effectivement, mais l'Angleterre, ils l'ont en coupe, par exemple. Ils l'ont pas. Ils l'ont dans certaines compétitions. Ouais. Donc, il y a des recours qui sont aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un peu aberrant que la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse, n'avait pas encore l'assistance vidéo.
Marcus,
je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque où on est un peu entre deux, dans la mesure où le football a longtemps pris ou toujours pris le parti pris d'être le sport le plus humain, le plus authentique, et donc du coup qu'il se livrait complètement à l'interprétation humaine de l'arbitre et à l'erreur qui faisait partie du jeu,
disait-on.
Et aujourd'hui, du fait qu'on ait cet outil vidéo et cette assistance qui est nécessaire, parce que le jeu va beaucoup plus vite qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, on s'attend à arriver à un jeu qui va être juste, équitable, et un arbitrage qui est parfait des deux côtés. Et c'est impossible dans la mesure où le règlement même fait appel à l'interprétation de l'arbitre, c'est-à-dire qu'un tacle, il n'y a pas de carton jaune et carton rouge qui sont définis par une règle précise. Ça va être de l'interprétation
toujours,
tout le temps.
Toujours, oui, subjectif.
Peu importe s'il y a une aide vidéo.
Eric, s'il y avait eu l'assistance vidéo...
Mon Dieu.
Il aurait pas eu de remontada pour la saison dernière.
Non, mais c'est sûr. Non, mais après, est-ce qu'il faut un certain nombre d'interventions de la VAR? Est-ce qu'il faut vraiment s'appuyer sur la VAR parce que elle est là pour aider sur certaines situations? Donc c'est le jeu qui va dire aussi. C'est-à-dire que si t'as 4 pénalties ou 3 pénalties comme la dernière fois, et ben on est obligé d'utiliser la VAR plusieurs fois pour. On peut pas se dire on va utiliser que pour 2 pénalties, c'est pas possible. Donc
oui, mais il faut définir alors que voilà, le match soit très haché.
Il faut définir les règles précisément.
C'est pour ça que c'est un défi logistique.
Sur ce point-là, la FIFA a toujours été très claire. On prend le temps qu'il faut, l'important c'est la justice.
Oui, mais après le problème effectivement des diffuseurs et de tout ce qu'on sait, même sur RFI, on va s'en rendre compte peut-être.
Mais ils vont vite trouver le moyen en diffusant la publicité.
Oui, non, mais sur RFI, vous aurez remarqué que nous n'en avons pas.
Oui, c'est vrai.
Donc ça peut déborder sur les bulletins d'information. Mais c'est comme ça. Allez, direction l'Espagne.
Atlético de Madrid, yo seré tu seguidor, yo contigo hasta morir.
Hommage sera rendu à un grand champion colchonero demain au stade Metropolitano de Madrid et de la part des supporters donc de ce club madrilène, Isacio Calleja, l'éternel joueur de l'Atlético qui fut aussi international avec la Roja, est décédé cette semaine à l'âge de 82 ans. Nous vous en parlions dans Radio Foot et cette chanson illustre cette époque antérieure de l'Atlético. Madrid divisé ce week-end entre colchoneros et merengue puisque il y aura sur la pelouse donc du Metropolitano ce match Atlético-Real, 23e journée de Liga, deux équipes qui se suivent mais que deux points séparent, l'une étant seconde et c'est l'Atlético. Deux équipes sur des dynamiques différentes, le Real qui se reconstruit, qui a enregistré 4 victoires et un nul au Camp Nou en Coupe du Roi, 4 victoires en championnat et puis l'Atlético qui ne perdait pas depuis octobre dernier et avait enregistré 19 matchs sans perdre jusqu'au Betis Séville le week-end dernier. Sur la pelouse, Rémi, est-ce que l'Atlético, sur sa pelouse, est-ce que l'Atlético est favori?
Non.
Ça se joue
à Madrid et au-delà
de
ça.
Oui, mais ça se joue chez les colchoneros, Rémi. Bien sûr que ça se joue à Madrid. C'est le derby madrilène.
Ça se joue à Madrid et puis...
Vous faites rire, Eric.
Et puis, lorsque j'essaie de voir aujourd'hui, comme vous avez d'ailleurs évoqué la dynamique, Atlético ne parvient pas à retrouver toutes ses sensations, alors qu'aujourd'hui...
Enfin, c'était sur un match.
Oui, pour beaucoup de matchs, le Real aujourd'hui retrouve des bonnes sensations. Donc, je trouve aujourd'hui que Atlético ne pourra certainement pas... Ben, parce que d'ailleurs, quand vous dites que c'est sur leur stade, ils sont invincibles, non.
C'est non, sur je leur... étaient invincibles.
Ah, c'est sur leur stade, et bien au contraire, que le Real a souvent eu des très bons résultats. Mais par contre, au Bernabéu, le Real a souvent, au Santiago Bernabéu, le Real a eu beaucoup de difficultés tous ces derniers temps. Donc, moi, je trouve que...
Le Real se sent mieux sur la pelouse des adversaires.
Ah oui. Ah oui, et d'ailleurs vous vous souvenez quand que ce soit en Ligue des Champions et tout, c'est là où le Real mettait les trois et qu'on sort avec le triplé de Cristiano Ronaldo, mais donc, quand on arrive au niveau de Bernabéu, c'est un peu différent. Donc aujourd'hui, quand je vois l'équipe du Real Madrid qui se reconstruit avec certainement une attaque qui devient encore beaucoup virevoltante avec un Benzema qui, s'il n'est pas à la finition, il est à la passe. Et surtout, quelqu'un qui est capable de faire très très mal aux défenses, tel que Vinicius, qu'on n'utilisait pas au début, parce qu'il faut quand même se dire que, avec lorsque Lopetegui était là, il n'avait joué que 7 minutes. Que 12 minutes.
Pardon. Il est très très jeune, Rémi.
12 minutes. Mais
il a une saison au Flamengo.
Mais on ne va pas dire, qu'il a vieilli en un mois.
Non, non. Mais c'était peut-être pour ça que Lopetegui n'avait pas osé.
Ah non, Lopetegui avait un autre football avec Isco. Il fallait tourner en rond et tout. Mais aujourd'hui, le Real est beaucoup plus séduisant. Le Real est beaucoup plus convaincant. C'est vrai que le Real vient de perdre un élément qui était très important au niveau du milieu du terrain. Donc, on se dit que peut-être qu'il sera bien remplacé par Casemiro, qui est quand même aussi revenu.
Alejandro.
Moi, je pense que ce match, dans ce match, la fraîcheur va compter beaucoup. Il faut se rappeler quand même que le Real a joué au Camp Nou il y a quelques jours avec pratiquement tous ses titulaires. Ça n'a pas été un match d'un niveau d'intensité exceptionnel, mais quand même, c'était un classico, alors que l'Atlético n'a pas eu de match à jouer en semaine, puisqu'il est éliminé de la Coupe, et donc il a pu préparer sereinement la venue du Real. Donc, dans ces conditions-là, et sachant que le Real, en plus, a un match contre l'Ajax en début de semaine à disputer en Ligue des Champions, les facteurs fraîcheur peuvent être très importants et va favoriser probablement l'Atlético.
Xavier ?
Ouais, je ne suis pas sûr que ce derby de Madrid soit la priorité des deux clubs à respectivement 3 et 10 jours d'un huitième de finale de Ligue des Champions, qui est crucial pour les deux, puisqu'on rappelle que la finale de la compétition aura lieu au Wanda Metropolitano, justement, avec l'Atlético aimerait bien y être, et que le Real, lui, joue aujourd'hui pour cette Ligue des Champions, puisqu'il en est le tenant depuis 3 ans. Donc je suis pas aussi impatient de voir ce derby que je l'étais de voir le Classico aller, même si c'est vrai que Messi était sur le banc et qu'on a eu un match de niveau moyen. Mais bon, voilà, il y a toujours cette intensité entre Barcelone et le Real qui aura peut-être pas là. Parce que je pense que la priorité des deux clubs, c'est la Ligue des Champions qui arrive.
Pourtant, Eric, finalement, un derby est un derby, non?
Moi, je suis pas trop d'accord parce que il y a quand même le championnat, c'est quand même important et pour les deux, là, c'est un moment crucial, encore plus pour le Real parce qu'ils doivent vraiment passer devant l'Atlético. S'il y a un moment donné où tu peux passer devant, c'est maintenant. Donc, ils ont quand même besoin de faire un résultat là-bas.
Et le Real,
je mets une petite pièce sur le Real.
Semaine de test et là c'était le deuxième test, donc avec le premier qui s'est pas trop mal passé.
Ouais, ça s'est pas trop mal passé. Ils ont été quand même cohérents.
Alors, match nul.
Ouais, Marcelo, je l'ai trouvé très très embêté par Malcolm. Malcolm, il a fait la musique, ouais. Mais donc, après voilà, ils peuvent être embêtés forcément par les forces offensives de l'Atlético.
Il y a Morata, un certain Morata qui aura envie d'une revanche du côté de l'Atlético.
Forcément, donc non, ça sera pas facile. Mais je pense que ce sera un match intéressant quand même.
C'est assez amusant d'ailleurs les mélanges des genres là, parce qu'on aura Thibaut Courtois qui a longtemps été le gardien de l'Atlético
et Solari qui a été entraîné par Simeone.
Qui se retrouve dans les cages du Real.
C'est quand même
exactement
rigolo.
À San Lorenzo et Santiago Solari qui a même porté Alejandro les couleurs de l'Atlético Madrid en 1999 le 7 février. Il portait alors les couleurs de Madrid des Colchoneros. Marcus, un petit mot sur ce derby madrilène.
C'est le derby au nom des entraîneurs argentins.
en plus.
Je pense que c'est assez frustrant de suivre le Real Madrid en ce moment, dans la mesure où c'est une équipe qui a été capable de remporter 3 Ligues des Champions consécutives, mais qui n'a pas une identité de jeu qui s'affirme semaine après semaine.
Ouais.
La formation a été bousculée forcément cette année avec le changement d'entraîneur, mais au-delà du changement d'entraîneur, on ne sait pas quel visage Marcelo va montrer, on ne sait pas quel visage Modric va être capable de montrer, et du coup c'est... Je me permets plus de pronostiquer des résultats de Real parce que c'est très compliqué.
Ça devient difficile. Ouais.
Ça devient difficile.
Ouais, mais ils sont mieux, hein, quand même.
Le match aura lieu samedi. Je signale, on n'aura pas le temps de s'y arrêter beaucoup parce que notre session carton nous attend, mais que Manchester City, jouera en Angleterre et ça sera dimanche. Ça sera contre Chelsea. Chelsea qui, relève un petit peu la tête vraisemblablement en ce moment avec Gonzalo Higuaín qui est arrivé, qui a marqué la semaine dernière. Gonzalo Higuaín allié à Eden Hazard. On verra si cela réussit à Chelsea ou si au contraire les Citizens réussiront à garder la tête du championnat. Allons directement à nos cartons.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Xavier Barré. Premier carton.
Un carton spécial,
sans couleur.
Sans couleur. Pour Emiliano Sala, on se doutait qu'il n'était plus de ce monde. La nouvelle est tombée tout récemment, puisqu'on a retrouvé son corps donc au fond de la Manche, dans l'avion qui s'était écrasé il y a 3 semaines maintenant. Et donc du coup, la famille va pouvoir faire son deuil et un hommage lui sera rendu sur toutes les pelouses de Ligue 1 avant la journée de ce week-end. Donc, c'est une tragique histoire, mais quelque part, le fait d'avoir pu retrouver sa dépouille va soulager tous ceux qui étaient dans l'incertitude et quelque part dans un espoir un peu impossible.
Avec une équipe de Nantes qui retire le numéro 9.
Oui, alors ça c'est aussi des habitudes qui se font dans les grands clubs. Et là, Nantes a pris cette initiative de retirer le numéro 9. Je trouve que c'est un très bel hommage qui lui est rendu par les Canaries.
Merci Xavier. Alejandro Valente, un carton un peu dans un sens de tristesse aussi.
Oui, c'est vrai que c'est la semaine du deuil. En tout cas, un carton à Jacques Ferrand, qui est quand même un journaliste et qui a marqué l'histoire du journalisme sportif d'après-guerre. Jacques Ferrand, qui était une grande plume de l'équipe, puis de France Football. C'est un homme qui non seulement était un grand journaliste, mais aussi un grand visionnaire, puisque il a eu l'idée, avec quelques autres, de mettre sur pied ce qui allait devenir la Coupe d'Europe des clubs champions, puis aujourd'hui la Ligue des champions, mais également... Et puisqu'il était à France Football, qui est un titre qui avait été racheté par le groupe qui dirigeait l'équipe à la Fédération française de football, afin de le relancer, il avait eu l'idée de créer un prix, le Ballon d'Or. C'était au milieu des années 50 et aujourd'hui on sait que le Ballon d'Or est le trophée le plus prisé par tous les footballeurs. Donc voilà, un grand hommage à ces grands messieurs qui nous a quittés, qu'on avait plaisir à revoir de temps en temps dans quelques sorties à Paris avec Xavier Barré, lorsque des anciens journalistes se retrouvaient. Et voilà, c'est quelqu'un qui a transformé en partie le football pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui.
Ouais, qui l'a transformé, modernisé et qui avait 98 ans. Hein.
Absolument.
Jacques
Ferrand. C'est quelqu'un qui a une longue vie.
Ouais, mais qui a aussi beaucoup, justement, vous le disiez, parrainé, enfin, qui est souvent venu à l'équipe et que tous les mêmes jeunes journalistes de l'époque connaissaient et côtoyaient.
Absolument.
Et plus qu'une légende.
Beaucoup des gens ignorent que c'est un journaliste et qui était un peu à l'origine de la création de toutes ces merveilles qui aujourd'hui nous passionnent. Et c'est lui qui avait écrit le règlement de cette première version des Coupes d'Europe. Et voilà, c'est souvent, on dit que souvent en France, on s'est inventé les choses. Il y a eu la Coupe du Monde de football, la FIFA, la Coupe d'Europe, mais qu'on a parfois un peu plus de mal à la gagner.
En tout cas, c'est plus vrai.
Jacques Ferrand a laissé sa grande marque dans l'histoire du football européen.
Notre jeune stagiaire que vous avez vu en photo sur notre page Facebook au cours de la semaine, Maëlle, est là. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Alors vous avez préparé toute cette semaine votre carton et j'aurais voulu savoir à qui vous mettez un carton et de quelle couleur.
Alors mon carton sera rouge et il sera pour Tyrone Mings, le défenseur d'Aston Villa, prêté par Bournemouth. Il a fait un très vilain geste ce week-end en D2 anglaise lors du match Aston Villa contre le Reading FC. Il a fait une faute faite exprès sur Oliveira, ancien joueur de Rennes. Oliveira est tombé par terre et Mings lui a écrasé la tête. Mmh. Et donc ça donne une
photo. Il a eu un carton rouge, lui, j'espère.
Il n'a pas eu de carton.
Même pas.
Et ce n'est pas la première fois, car il s'est déjà heurté à Zlatan Ibrahimovic.
Il a osé.
Il avait fait exactement la même faute. Il lui avait écrasé la tête. Il n'avait pas eu de carton non plus.
Mmh.
Et à l'action d'après, Zlatan lui a mis un coup de coude dans la tête. Et là, il a eu un carton, Zlatan. Mmh.
Mais... Du coup, la VAR va pas arranger son cas.
Mais le club et la famille du joueur se sont prononcés et ont dit que la blessure n'était pas très grave, mais il a quand même des traces très profondes sur le visage. Bon. Il était ensanglanté.
Donc, c'est un joueur à éviter sur une pelouse, c'est ça? Il faut pas.
Est-ce qu'on peut applaudir pour lui?
Parce que merci, Maël.
C'est magnifique. Parce que là, tu viens de faire que je prive pour toute la semaine prochaine et la semaine d'après mon fils de son argent de poche. Parce que je vais lui montrer ta photo. Mais regarde comment le petit enfant, là, il parvient à parler mieux que toi.
Alors, Rémi, vous voyez, on a des futurs journalistes en herbe ici, dans Radio Foot.
Il est fantastique.
Rémi, votre carton.
Alors, le carton, c'est Khalifa Bara Thiaw de ma page Facebook qui, depuis Dakar, est tout heureux de donner un carton vert aux jeunes joueurs sénégalais de moins de 20 ans qui se sont qualifiés pour la demi-finale de la CAN de leur catégorie et de la Coupe du Monde. Contrairement aux seniors qu'on annonce chaque jour qui vont remporter la CAN, qui sont des stars.
Ah ben là, ils n'ont pas gagné encore, Rémi, ils sont qualifiés.
Mais quand même, ils sont qualifiés, c'est déjà beaucoup ça. Donc, on peut déjà se contenter de ça par rapport aux seniors qui sont souvent précipitamment éliminés. Donc aujourd'hui, c'est quand même une fête, il faut les féliciter. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut un petit teuf dans le plat d'aujourd'hui que d'attendre un poulet qu'on n'aura jamais.
Ils vont croiser l'Argentine qui s'est qualifiée hier soir.
Il n'est pas dans l'excès.
Eric, vous avez un carton ou pas?
J'ai un carton, mais c'est un carton symbolique. C'est pour l'arrivée de Higuain qui marque en arrivant à Chelsea. Donc,
un doublé en plus.
Ouais, un doublé et puis une bonne prestation. Bon, Chelsea aurait pu gagner 10-0, mais bon, ils en ont mis que 5. C'était quand même une grosse différence entre les deux équipes.
Et le plus important sera d'en mettre contre City, comme on le disait tout à l'heure, mais ça, on le verra au cours du week-end. Le carton de Radio Foot International est un carton noir et rouge, là aussi des pensées tristes et endeuillées au Flamengo, le club de Rio de Janeiro, et surtout penser aux 10 personnes qui sont décédées au cours de la nuit dernière dans l'incendie du centre d'entraînement, le fameux Ninho do Urubu, à Vargem Grande, c'est dans la banlieue de Rio de Janeiro, le centre d'entraînement où étaient des jeunes de 14 à 17 ans, et un centre que connaît bien d'ailleurs Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid, où il a été formé et il avait posté un message très tôt ce matin pour le Flamengo. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup Marcus Kaufmann d'être venu nous parler de ce Thomas Tuchel qu'on connaissait pas forcément très bien.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci. Bon retour vers Londres, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Vers Londres. Vous pouvez nous écouter aussi là-bas hein, grâce à l'appli. Merci à tous. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer ce Café des Sports et à Julien Magoharou qui était à la réalisation. Et bien sûr, nous serons là lundi.